Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité ce jeudi 7 janvier 2021. Le chaos à Washington où des partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole en pleine session parlementaire. Une manifestante pro-Trump est décédée. En Grande-Bretagne, Julian Assange s'est vu refuser sa demande de remise en liberté conditionnelle. Et puis en toute fin de journal, on vous emmènera à l'Opéra de Sydney où la grande musique, mais aussi et surtout le public, sont de retour. Scène surréaliste dans la capitale américaine, il y a quelques heures, des manifestants pro-Trump ont forcé l'entrée du Capitole alors que les membres de la Chambre des représentants devaient certifier les résultats de l'élection présidentielle. La maire de la ville a instauré un couvre-feu, la garde nationale a également été appelée en renfort. On fait le point sur place avec la correspondante permanente de RFI, Anne Corpet.
Peu à peu, autour du Capitole, où la police anti-émeute est toujours en train d'évacuer les manifestants, la police du Congrès vient d'annoncer que l'intérieur du bâtiment était désormais sécurisé. Il y a eu des tirs de grenades lacrymogènes et même, semble-t-il, quelques tirs à balles réelles, puisque selon NBC, la femme qui a été blessée cet après-midi, apparemment une manifestante à l'intérieur du Congrès, eh bien, elle serait décédée des suites de ses blessures. Alors la nuit est maintenant tombée ici à Washington. Vous l'avez dit, les manifestants qui sont toujours dehors risquent désormais d'être interpellés puisque la maire de la capitale fédérale a annoncé la mise en place d'un couvre-feu qui entre en vigueur en ce moment même. Muriel Bowser qui vient de préciser qu'un périmètre de sécurité allait être instauré autour du Capitole, mais de nombreux partisans du président sont encore dans les rues de Washington. Certains sont plutôt remontés, ils insultent les policiers alors qu'habituellement les participants aux manifestations en faveur de Donald Trump salue les forces de l'ordre, les félicite pour leur travail. Les prochaines heures seront donc déterminantes. De nouveaux débordements ne sont pas à exclure. La garde nationale a donc été déployée. Fait curieux, c'est le vice-président Mike Pence qui a approuvé l'ordre de ce déploiement. Normalement, c'est au président, au commandant en chef Donald Trump de le faire.
Et dans ce climat extrêmement tendu, le président élu Joe Biden a pris la parole. Il a qualifié les manifestants de voyous et estime que ces accès de violence s'apparentent à un acte de sédition. Écoutez-le.
Je tiens à être extrêmement clair. Les scènes de chaos que nous avons observées au Capitole ne reflètent pas ce que sont réellement les États-Unis. Cela ne reflète pas qui nous sommes. Ce que nous voyons, c'est un groupe réduit d'extrémistes qui refusent de respecter la loi. C'est du désordre, c'est du chaos, c'est presque de la sédition. C'est quelque chose qui doit s'arrêter tout de suite. Je demande à ce groupe de voyous de se retirer et de laisser la démocratie suivre son cours. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans différents contextes. Les mots d'un président comptent. Peu importe si ce président est bon ou mauvais. Au mieux, les mots d'un président, les paroles d'un président peuvent être une source d'inspiration. Au pire, ces paroles peuvent inciter de la violence. J'exhorte donc instamment le président Trump de se présenter à la télévision nationale dès aujourd'hui pour remplir sa promesse et défendre la Constitution.
Et l'appel de Joe Biden n'a été que partiellement entendu par le président sortant, puisque ce n'est pas à la télévision, mais dans une vidéo publiée sur Twitter que Donald Trump s'est exprimé. Il a appelé les manifestants au calme et à rentrer chez eux. Mais il a aussi répété, une fois encore, que l'élection qu'il a perdue en novembre dernier était frauduleuse.
I know your pain, I know you're hurt.
Je connais votre peine et je sais que vous souffrez. Une élection nous a été volée. C'était une victoire écrasante et tout le monde le sait, surtout l'opposition. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'ordre et de loi. Nous devons respecter nos formidables forces de l'ordre. Personne ne doit être blessé. C'est une période très difficile. Il n'y a jamais eu un moment comme celui-ci où de telles choses se sont produites. On nous a tout enlevé, à nous tous, à moi, à vous, à notre pays. C'était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas entrer dans le jeu de ces gens. Nous avons besoin de paix. Alors rentrez chez vous. Nous vous aimons. Vous êtes très spéciaux. Vous avez vu ce qui se passe et vous voyez la façon dont certains sont traités. Ils sont tellement mauvais et diaboliques. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous et rentrez en paix.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces scènes de violence à Washington ont choqué et aussi suscité l'indignation, un peu partout dans le monde. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'ampleur de ces manifestations et des conséquences qu'elles pourraient avoir ? La réponse est non pour Julien Toureille. Il est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis et il pense qu'on peut continuer à avoir confiance dans la robustesse de la démocratie américaine.
Il y a une inquiétude parce qu'on n'est pas habitué à ça aux États-Unis, hein, que ce soit les politiciens, que ce soit les forces de l'ordre, les médias sont assez à juste titre finalement effrayés par ce qu'ils voient. C'est certainement un moment très triste, un moment très dommageable pour l'image de la démocratie américaine, mais il n'en demeure pas moins qu'on est quand même à mille lieues d'avoir un coup d'État qui réussisse, c'est-à-dire un Congrès qui, parce qu'il finira par se réunir de nouveau, et sous la pression de quelques milliers de manifestants pro-Trump, changerait d'avis et accepterait finalement de s'engager dans la procédure d'un coup d'État. Donc c'est un moment tendu, un moment triste, mais en tant que tel, la démocratie américaine, on peut estimer qu'elle s'en sortira. Et il y aura peut-être finalement une vertu là-dedans pour certains élus républicains qui ont voulu jouer avec le feu du trumpisme, d'avoir quand même un wake-up call, cette capacité à prendre conscience de la dangerosité du chemin vers lequel elle pouvait amener le trumpisme, et peut-être donc revenir à la raison et se distancer de cet héritage-là.
C'était donc Julien Toureille, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis, qui s'exprimait sur les ondes de nos confrères de Radio France Internationale. Un dernier mot sur les États-Unis pour préciser que le Parti démocrate est désormais majoritaire au Sénat. John Ossoff a remporté une élection partielle qui se déroulait hier dans l'État de Géorgie, tandis qu'un peu plus tôt, dans le même État, un autre démocrate, Raphaël Warnock, a aussi gagné un siège de sénateur dans cet État. Raphaël Warnock devient ainsi le premier sénateur noir élu en Géorgie, qui est un État du sud des États-Unis. Ça signifie donc que Joe Biden a désormais les mains libres pour gouverner lorsqu'il entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier, puisque les démocrates contrôlent désormais non seulement le Sénat, mais également la Chambre des représentants. Et pour ce qui est de John Ossoff, qui vient donc d'être élu, il s'est engagé à débarrasser la Géorgie du coronavirus, mais aussi à faire en sorte que la justice soit la même pour tous.
As we unite as a people to overcome this challenge of COVID-19 and to build a republic that lives up to our highest ideals of equality in God's eyes and equal justice under the law. Georgia, thank you so much for the confidence that you've placed in me. I am honored by your support, by your confidence, by your trust.
Au Royaume-Uni, pas de liberté conditionnelle pour Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Le tribunal a estimé qu'en cas de libération, le risque que ce dernier prenne la fuite était trop élevé. Le rédacteur en chef de Wikileaks, Christine Rafnefson, pense que cette décision est injuste.
It's obviously a great disappointment to get this decision now from the operator not to release Julian Assange on bail. We think it's unjust and unfair and illogical as such. When you consider her ruling 2 days ago about Julian's health.
L'Union européenne, pour sa part, vient d'approuver le déploiement d'un deuxième vaccin contre le Covid-19. Il s'agit cette fois de celui développé par le laboratoire Moderna. Ce vaccin de Moderna devrait être efficace également contre le nouveau variant du coronavirus, beaucoup plus contagieux, qui est apparu il y a quelques semaines en Grande-Bretagne. C'est en tout cas l'opinion de Ton de Boer. Il est président de l'Agence hollandaise d'évaluation des médicaments.
We expect this vaccine, as Pfizer said for theirs, to be just as effective for the English variant of the virus, but that still needs to be confirmed by research, and the manufacturer is working to see if we can know for certain.
Dat we daar wel zekerheid over hebben.
La Chine, elle, est toujours en cours de négociation avec l'Organisation mondiale de la santé pour permettre à des experts de l'organisation de se rendre sur place et d'enquêter sur les origines du coronavirus. Le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, s'était plaint récemment de la lenteur avec laquelle la Chine répondait à cette requête, une requête qui a été votée par l'Assemblée générale de l'OMS au mois de mai dernier. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères assure que son gouvernement fait pourtant aussi vite que possible.
The origins problem is very complex. To ensure the work of the Global Experts Group in China is successful, we need to carry out necessary procedures and make relevant concrete plans. Currently, both sides are still negotiating on this.
En Amérique latine, la déclaration fracassante du président brésilien Jair Bolsonaro. Il assure qu'à cause de la pandémie de coronavirus, le pays est en faillite et que lui, le président, ne peut absolument rien y faire. Il a d'ailleurs cessé de verser des paiements aux Brésiliens les plus pauvres. On va écouter les explications d'Anishka Kumor pour RFI.
Selon le président Bolsonaro, l'effondrement de l'économie brésilienne est dû aux restrictions mises en place par les gouverneurs pour lutter contre la pandémie. Mais la situation est un peu plus complexe. La crise économique liée au Covid-19 a fait revenir le PIB du Brésil à des niveaux de 2009. La demande interne et externe ainsi que la production et les services ont chuté dès la mi-mars. Toutefois, un regain de l'activité au troisième trimestre a mis fin à la récession. La consommation et l'investissement ont fortement rebondi. L'incertitude vient plutôt de la capacité des autorités à s'accorder sur le plafond des dépenses. Les marchés s'interrogent quant aux capacités du gouvernement à redresser les finances publiques. La dette du pays risquerait de le placer au bord d'un gouffre social. Le Brésil a besoin de réformes. Elles doivent porter sur la réforme fiscale, la fonction publique, plus globalement sur l'environnement des affaires et le rôle de l'État au sein de l'économie. Le rythme des réformes était déjà lent avant la pandémie. La crise est venue y porter un frein supplémentaire.
Et pour finir ce chapitre international, un aveu surprenant de la part du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Il a reconnu publiquement que sa politique économique était un échec total et que quasiment aucun des objectifs économiques fixés dans le cadre du dernier plan quinquennal n'avait été atteint. Là encore, c'est le coronavirus qui est en cause. La pandémie a provoqué la fermeture de la frontière du pays avec la Chine, de très loin son principal partenaire commercial. Et cela a entraîné une véritable dégringolade de ses échanges commerciaux, une baisse de 80%. En Nouvelle-Galles du Sud, comme dans le Victoria, aucun nouveau cas de coronavirus par transmission locale aujourd'hui. Une bonne nouvelle, mais John Barilaro, qui dirige la Nouvelle-Galles du Sud par intérim, implore néanmoins la population à se faire tester. Le nombre de dépistages, 27 000 hier, étant toujours trop bas, d'après lui.
I'm encouraging people again in New South Wales to come out and get tested. I urge you to do that. It is so important, as if we live to live with COVID. And to make sure the restrictions that are in place are the appropriate restrictions. And if there is an opportunity to lift restrictions in the future, and especially around the northern beaches, that data is very important.
Et puis, on l'a appris il y a quelques minutes seulement, Scott Morrison a donné aujourd'hui une conférence de presse. Il a annoncé que la campagne de vaccination en Australie allait être avancée d'un mois. Elle devrait donc débuter en février plutôt qu'en mars. Et puis maintenant, un petit mot de culture. Mardi soir, à l'Opéra de Sydney, s'est déroulée la première représentation d'un opéra depuis 10 mois. La dernière fois, c'était le 17 mars et avant le coronavirus. Malgré la capacité réduite et le port du masque obligatoire, les spectateurs sont venus nombreux pour cette première. Nous y étions aussi. Reportage. Après des mois à prendre la poussière, les musiciens ont ressorti leurs instruments et les spectateurs leurs plus belles tenues pour cette première soirée à l'opéra. Pour la première fois depuis 10 mois et le début de la pandémie de coronavirus, l'Opéra de Sydney a retrouvé mardi soir son public. Probablement pour lui remonter le moral après une année éprouvante, le premier spectacle de l'année 2021 est une opérette comique, La Veuve Joyeuse. Love was true. And now I'm rich, so you say that we are through. You are no longer the one. Very
exciting to be back. A lot better than watching it on television.
Delighted to be able to be in the Opera House and go back and see our wonderful company performing. It's a real thrill.
Le spectacle vivant est de retour, mais une soirée à l'opéra à l'ère du Covid, c'est quand même un peu différent. La capacité d'accueil a été réduite d'un quart et le port du masque est obligatoire.
It sort of loses part of the charm, but it's worth it to be here.
If this is what we have to do to come out, well then that's what we got to do.
Although it's not completely satisfactory to be sitting here with masks and not many people in the audience, we have to take little steps by little steps in order to get back to where we'd like it to be, which is back to normal.
Le monde de la culture et les salles de spectacle en particulier ont beaucoup souffert en 2020. Et ça n'est pas fini, puisqu'une fermeture soudaine n'est pas exclue, les autorités sanitaires étant confrontées à la résurgence du virus à Sydney.
Ladies and gentlemen, the performance in the Joan Sutherland Theatre will commence in 10 minutes.
Alors autant en profiter tant que ça dure, l'opéra de Sydney est actuellement le seul au monde à jouer devant du public. Et pour finir, un petit mot sur la météo de ce jeudi en Australie. 38 degrés et grand soleil à Perth. Restez à l'ombre, c'est un conseil. 28 degrés à Adélaïde, où il fait très beau aussi. Des nuages en revanche dans le ciel de Melbourne avec une température maximale de 25 degrés. À Sydney, 24 degrés et de la grisaille. Des averses prévues à Brisbane aujourd'hui où il fait 27 degrés. Et enfin 33 degrés à Darwin où, comme tous les jours en cette saison, il y aura de la pluie et de l'orage dans la journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.